Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Vos enfants ou vos petits-enfants sont peut-être scolarisés dans une école qui suit les pédagogies dites nouvelles, du type Freinet ou Montessori, des pédagogies qui préconisent un environnement adapté, un climat serein en classe, des établissements qui encouragent l'autonomie, l'activité des élèves, qui les laissent suivre leur élan naturel face à un panel d'activités, des écoles qui permettent de déployer leurs compétences à leur rythme et qui font de l'erreur un outil d'apprentissage. De nombreux parents jugent efficaces ces écoles, Montessori ou Freinet, mais que valent ces méthodes à l'épreuve de l'évaluation scientifique? De plus en plus de chercheurs et d'enseignants collaborent pour évaluer les bénéfices de ces pédagogies pour le cerveau des enfants. Pour nous aider à y voir plus clair, Olivier Houdet, professeur en psychologie du développement, Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, notre complice ce matin, et Christina Pelédouel de Psychologie Magazine. Toutes vos questions et réactions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
En nage.
Oui, j'ai un peu couru pour arriver.
Quel est le menu de votre ordonnance philosophique vers 11h25?
Eh bien, on va retrouver une figure pédagogique fondatrice, la figure de Socrate.
Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Olivier Houdet.
Bonjour.
Professeur en psychologie du développement à la Sorbonne, chercheur au CNRS, au département de, au laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Et vous avez notamment publié L'école du cerveau de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives. C'est publié chez Marthe Daga. Bonjour Christina Pelédouel.
Bonjour Ali.
Journaliste à Psychologie Magazine. Vous avez beaucoup de questions à poser ce matin. Olivier Houdet, et nous attendons notre ami Sébastien Boller, rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho, qui consacre son numéro de décembre aux pédagogies Montessori Freinet avec cette question: quel bénéfice pour le cerveau des enfants? Alors, avant de découvrir quels sont les bénéfices pour le cerveau des enfants de toutes ces pédagogies, j'aimerais qu'on s'intéresse justement à ces pédagogies, Olivier Houdet. Que regroupe-t-on sous la bannière pédagogie nouvelle, qui sont plus si nouvelles que ça?
Non, elles ne sont pas si nouvelles puisqu'elles ont émergé au début du XXe siècle. Rappelez-vous quand même que c'était la première moitié du XXe siècle, l'époque des deux grandes guerres mondiales. Donc on se posait la question de l'humanité, de l'intelligence, de la rationalité, du vivre ensemble. Montessori, femme, première femme médecin en Italie, et Célestin Freinet, un instituteur provençal en France, se sont dit, c'est dès l'école maternelle qu'il faut respecter les enfants, les protéger, et c'est en rendant les enfants curieux d'autrui et en leur apprenant à jouer, à collaborer avec les autres, qu'on peut espérer pour plus tard, lorsqu'ils seront adultes, que ce soit des citoyens en paix, qui préserveront la paix. On oublie de le rappeler, le but de ces pédagogies alternatives était bien sûr les apprentissages scolaires fondamentaux, mais surtout un but social, de vivre en paix, avec le pari très juste que si on respecte les enfants, dès leur plus jeune âge, ils respecteront les autres plus tard.
Alors on va s'intéresser ce matin principalement aux méthodes de Freinet et Montessori, mais quels sont les points communs et les différences fondamentales entre ces deux pédagogies? On détaillera tout à l'heure le contenu de ces méthodes.
Le point commun, je peux en témoigner, je fus instituteur Freinet il y a longtemps, dans les années 80. Le point commun, c'est que vous partez de l'élan vital des enfants. Déjà, John Locke, le grand philosophe empiriste, mais qui était aussi un philosophe de l'éducation au siècle des Lumières, disait « il faut partir de l'élan spontané, l'élan vital des enfants ». Et si vous faites cela en classe, ça veut dire que les enfants seront motivés pour apprendre, et lorsque l'enfant est motivé, il s'autodiscipline. Donc ça règle déjà beaucoup de problèmes pour l'organisation de la classe, et après vous devez en quelque sorte greffer les apprentissages scolaires, lire, écrire, compter, raisonner, respecter autrui, donc vivre ensemble, mais sur des projets qui motivent l'enfant, et l'émotion est d'emblée à ce moment-là au cœur de l'apprentissage.
Et les différences entre Freinet et Montessori?
Donc globalement, c'est la même approche, respecter l'enfant à partir de la volonté de l'enfant. La différence que l'on pourrait voir, c'est que Montessori insistait beaucoup sur le jeu, apprendre par le jeu, et l'enfant pouvait même jouer seul, en quelque sorte. Freinet a insisté davantage sur le travail. Freinet, rappelez-vous, était quand même un militant socialo-communiste, ou communo-socialiste à l'époque, et donc il croyait vraiment à la coopération sociale, à la valeur positive du travail collectif, et il simulait donc à l'école des petites situations de travail imité, disait-il. Faire de la comptabilité, c'était apprendre les mathématiques. Faire du jardinage, c'était apprendre la botanique et les sciences, de certains points de vue. Et faire de l'imprimerie, parce qu'il y avait un atelier imprimerie, c'était apprendre le français.
Sébastien Boller, bonjour.
Bonjour Ali.
Comment expliquez-vous que de plus en plus de parents inscrivent leurs enfants dans ces écoles? En France, on compte par exemple environ 200 écoles Montessori, surtout dans le primaire, et une dizaine seulement sous contrat avec l'État.
Mmh. Oui, il y a beaucoup de parents qui, évidemment, tous les parents de plus en plus souhaitent le meilleur pour leur enfant et essayent de se démarquer un petit peu peut-être des autres familles. Il y a l'angoisse aussi que l'enfant n'ait pas toutes les cartes en main pour réussir. Ça, c'est malheureusement un aspect un peu défavorable dans la situation actuelle, c'est que on est très anxieux sur l'avenir des enfants et on a peur du stress qu'ils peuvent subir, des contraintes. On a aussi peur que l'enfant ait du mal à se concentrer dans des situations d'enseignement très passives, très verticales. Et les valeurs de créativité, d'indépendance, de motivation sont quand même de plus en plus mises en avant. On se rend compte, beaucoup de parents se rendent compte que c'est ça qui fait carburer finalement l'énergie psychique des enfants. Et c'est sans doute... Après, une question de moyens qui fait la différence. Il y a des parents qui peuvent avoir accès à ces écoles, qui sont quand même souvent plus onéreuses que d'autres. Mais il y a quand même un courant de fond, puisque même dans l'éducation traditionnelle, les principes de l'enseignement personnalisé commencent à infuser.
Et oui, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, invite les enseignants à s'inspirer de l'esprit Montessori, ce qui est largement le cas chez les enseignants des maternelles publiques et dans le primaire également, Olivier Houdet.
Oui, puisque si vous allez dans une classe maintenant Montessori, en 2019, vous verrez que la classe est organisée dans une classe inspirée de Montessori ou toute classe de l'école maternelle publique organisée en atelier. Donc il y a des petits coins pour chaque apprentissage. On essaye d'avoir un matériel pédagogique qui soit beau, esthétique, parce que la beauté est aussi très importante pour le cerveau. Donc un environnement épuré, beau. Et par ailleurs, c'est vrai que, pour compléter ma réponse de tout à l'heure, la différence entre Freinet peut-être et Montessori, c'est que Freinet insistait beaucoup via le travail sur la coopération sociale. Et les enfants devaient coopérer, et c'est ensemble, par exemple dans l'atelier d'imprimerie, que l'un tenait le papier ou allait le chercher, l'autre tenait les caractères mobiles d'imprimerie et le dernier reliait le texte et l'envoyait à l'école correspondante. Donc c'était cette idée de chaîne sociale de la coopération, on apprend ensemble. Et là aussi, comme le disait très bien Sébastien, c'est une valeur contemporaine auxquelles les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles, les conduites prosociales, altruiste, pas seulement travailler pour soi, donc en sortant un peu de l'individualisme qui a pu caractériser les générations précédentes, travailler avec et pour les autres.
Christine Appel-Edouard.
Oui, comment expliquez-vous, j'entends bien que Freinet et Montessori ont fait germer beaucoup de choses dans l'éducation nationale, ne parlons pas de l'éducation privée qui est encore autre chose, mais dans l'éducation nationale. C'est vrai dans les petites classes, c'est très vrai en maternelle, dans les maternelles. Les classes maternelles ont longtemps été montrées en exemple dans le monde entier, française j'entends, montrées en exemple dans le monde entier, c'est moins vrai maintenant. Comment expliquez-vous le fait que ça ne se soit pas davantage développé dans les classes primaires? Parce qu'on en est encore...
Et au collège. Et au lycée.
Mais d'abord dans le primaire, comment se fait-il que ni Freinet ni Montessori ait été aussi repris dans les classes primaires? Est-ce que c'est dû à la rigidité de l'éducation nationale et des programmes? Est-ce que c'est dû, je ne sais pas, à la difficulté des enseignants pour des tas de raisons de s'y mettre, hein, y compris des raisons matérielles, de formation? Pourquoi? Parce que ça fait quand même, vous l'avez dit, hein, ça fait quand même très longtemps, Montessori et Freinet.
Olivier Houdet.
Alors c'est vrai qu'on associe plutôt ces pédagogies nouvelles à l'école maternelle. En disant c'est l'époque du jeu, c'est l'époque où les enfants peuvent découvrir en petits groupes. Et plus on va vers le primaire, le secondaire et l'université, on va vers des cours magistraux, verticaux, c'est-à-dire c'est le professeur qui donne l'information aux élèves, l'élève est passif face au prof et au tableau noir, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faudrait, vous avez tout à fait raison, continuer ces pédagogies après. Il faut aussi que les profs aient confiance en eux pour faire cela, parce qu'il faut un peu d'audace pour mettre les enfants en groupe, les laisser travailler de façon autonome et en même temps être vigilant à chacun d'entre eux. On dit parfois que ces pédagogies sont faites pour une école égalitaire. Moi, je ne crois pas au concept d'égalité. Je crois au contraire qu'il faut, tous les enfants ne sont pas pareils, il faut tenir compte, il faut être de façon peut-être identique, semblable, attentif aux différences d'apprentissage qu'ont les enfants. L'un sera plus rapide en lecture, l'autre plutôt en maths, chacun aura son style d'apprentissage. Donc ce n'est pas une école égalitaire, c'est une attention constante apportée aux enfants. Il y a aussi une question, vous avez raison, d'organisation de l'éducation nationale. Quand personnellement j'ai pu faire une classe Freinet en Belgique, mon pays d'origine, c'était dans un cycle qu'on appelait 5-8. C'est-à-dire qu'il y avait une seule classe pour les enfants de 5 ans à 8 ans, à charnière du CP. Et donc chaque enfant évoluant à son rythme, on pouvait avoir une pédagogie individualisée. Donc déjà le découpage année par année est très arbitraire par rapport au développement cognitif de l'enfant qui est beaucoup plus dynamique. Non linéaire, fulgurant, où certains iront moins vite ou vont régresser. Donc il faudrait déjà des cycles de plusieurs années. Dès lors, si vous avez un cycle 5-8, ça veut dire que vous avez trois professeurs ensemble dans les classes et qui peuvent se répartir les tâches. Et ainsi tout au long de la scolarité, il faudrait créer les conditions dans l'organisation de l'éducation nationale pour que ce soit possible, et le cycle est un exemple.
Sébastien Boller.
Oui, je crois qu'il y a trois facteurs importants. Le premier, c'est celui de la faisabilité des moyens, parce que faire ça sur quelques classes de maternelle, c'est une chose, et beaucoup le font un petit peu avec les moyens du bord. Mettre ça en œuvre pour un grand nombre de niveaux au primaire, ça suppose des formations, ça coûte cher pour les enseignants. Donc ça suppose un budget, ça suppose aussi un nouveau statut de l'enseignant quand même, avec peut-être pas tout à fait les mêmes contraintes de temps dans la gestion de la classe, peut-être plus de liberté de l'enseignant. Ça, c'est une première chose, les moyens. Une deuxième chose, c'est le fait que quand on arrive au collège et au lycée, il y a quelque chose qui approche, c'est les examens. C'est-à-dire qu'il y a des examens qui sont standardisés. Et quand on a des examens standardisés, comment est-ce qu'on accepte d'avoir des élèves qui arrivent en ayant eu peut-être des compétences qui ont été développées de façon diverse et hétéroclite? Comment intégrer cette dimension? Et puis la troisième chose, c'est que quand on progresse dans les niveaux d'enseignement, quand vous arrivez au lycée, par exemple, vous avez des théorèmes de mathématiques à apprendre, c'est pas évident de dire à l'enfant de construire son propre savoir. Il y a un moment où il y a la dimension descendante qui devient indispensable, et on n'a pas tout à fait encore maturé le mix du constructivisme où l'élève produit sa propre connaissance et le message descendant. Il y a des approches hybrides qui se créent, mais on est un petit peu encore au début, mais ça va être la clé.
Thibaut de Saint-Maurice, professeur de philosophie dans le civil.
Dans le civil, ouais. Non, il y a un facteur aussi qui est tout simplement la manière dont aujourd'hui on recrute des professeurs d'enseignement secondaire, collège et lycée. On les recrute sur une formation disciplinaire. Essentiellement. C'est-à-dire qu'on va recruter un professeur de collège ou de lycée de mathématiques sur un niveau en mathématiques. C'est important, évidemment, que le professeur de mathématiques soit un bon mathématicien, ou le professeur d'anglais un bon angliciste, ou de philosophie un bon philosophe. Simplement, on ne les recrute pas sur une capacité pédagogique. Et à la limite, d'abord, on fait passer le concours, et ensuite, on a une formation pédagogique qui est toujours un peu accessoire, même si ça a un peu changé et s'il y en a de plus en plus. Mais parce que au fond, il y a aussi un débat qui est structurant en France entre savoir si le professeur doit participer à l'éducation ou si le professeur doit d'abord favoriser une instruction. C'est le vieux débat entre éducation nationale et instruction publique. Et je pense que l'enseignement secondaire, je vous soumets en tout cas cette question, l'enseignement secondaire reste encore assez marqué en France par le souci de instruire des élèves dont on pense que les fondamentaux ont déjà été acquis préalablement.
Vous avez raison, c'est là le biais et l'erreur. On centre tout sur le disciplinaire. Et donc, vous savez, quand vous êtes instituteur dans une classe, il y a une seule question que vous devez toujours vous poser. Est-ce que vous privilégiez le programme ou l'élève? Et il faut évidemment appliquer le programme, mais ne privilégiez que le programme, donc la discipline à apprendre, et oubliez l'élève, ou faire l'hypothèse que tous les élèves dans ce grand groupe sont identiques, ça c'est une grave erreur pédagogique qui conduit au décrochage scolaire pour certains d'entre eux, et à tout ce que l'on peut regretter aujourd'hui. Donc moi je suis pour privilégier l'élève, tout en respectant le programme. Et alors vous avez nécessairement une attitude type Freinet ou Montessori, tenant compte des connaissances actuelles sur le cerveau. Et c'est ça le message qu'il faut faire passer. C'est ça la nouveauté. On peut découvrir le cerveau, ce qu'appelait Montessori l'âme de l'enfant. Il disait, si on pouvait voir l'âme de l'enfant, on peut le faire. Et il faut combiner aujourd'hui ces pédagogies dites nouvelles de jadis, Montessori Freinet, et les sciences cognitives, l'exploration du cerveau des enfants en développement.
Et on y reviendra dans quelques instants. Vous pouvez intervenir au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Belle journée à l'écoute de France Inter. The Ting Ting sur France Inter.
C'est une école de la patience, c'est la pédagogie. Il ne faut pas se précipiter.
On a trouvé ça.
Grand bien vous fasse.
Un enfant peut passer d'une situation d'échec à une situation de réussite.
Sur France Inter.
10h23, Freinet, Montessori, quel est le bénéfice des pédagogies nouvelles pour le cerveau des enfants? C'est notre question ce matin avec le professeur de psychologie du développement Olivier Houdet, Sébastien Boller, rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho, et notre camarade Christina Pelédoel de Psychologie Magazine.
Madame Montessori, je sais que vous êtes l'auteur d'une méthode de pédagogie moderne à laquelle le monde entier s'intéresse actuellement. Voulez-vous nous dire quelle est cette méthode?
Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la possibilité de vivre naturellement et d'exercer sa spontanéité. La maîtresse est comme une directrice de cet ambiance. Elle aide l'enfant dans son activité, mais ne le trouble pas, le laisse faire. Et de cette façon se développe une vraie éducation, parce que justement l'enfant devient plus intelligent. Alors nous avons vu avec merveille que l'enfant à 4 ans commence à s'intéresser à l'écriture. Il a commencé à écrire à 4 ans, à lire. À 5 ans, il lit des livres. À 6 ans, il commence à s'intéresser à la grammaire. Ils aiment beaucoup la mathématique. Les résultats sont que les enfants aussi, plus tard, continuent ce grand intérêt intellectuel et aussi pratique.
Je vous remercie beaucoup, madame.
La voix de Maria Montessori en 1947. Alors avant de s'intéresser plus précisément à l'évaluation scientifique de la méthode Montessori, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur Maria Montessori. Elle est née en Italie en 1870. Dans son pays, c'est la première femme diplômée en médecine. Elle travaille dans une clinique psychiatrique où elle s'occupe d'enfants considérés comme idiots, arriérés. Et elle constate une chose très simple, Olivier Houdet, c'est que ces enfants jugés irrécupérables se mettent à progresser quand l'environnement devient favorable.
Voilà, Maria Montessori était effarée de voir la tristesse, le côté sinistre dans lequel ces enfants étaient délaissés, parce que d'une part, on ne s'en occupait pas, et ils étaient, en effet, j'ai parlé de la beauté de l'environnement pédagogique tout à l'heure, ils étaient dans un environnement sinistre. Donc comment vouliez-vous, se disait-elle, que ces enfants progressent, aillent mieux? Au contraire, ils régressaient, pour certains, pouvaient même devenir fous, puisqu'ils étaient dans un milieu psychiatrique. Elle a donc décidé de les sortir de l'hôpital, de créer, grâce au soutien, faut le souligner, du ministre de l'Éducation à cette époque-là en Italie, de créer à Rome une école qu'on a appelée la Casa Bambini, la maison des enfants, où elle a d'abord rendu l'environnement beau, et elle a, comme elle le dit très bien, laissé ses enfants déjà sans que l'intervention de l'adulte soit négative, laisser les enfants s'épanouir, laisser leur spontanéité s'éveiller, tout en jouant un rôle de tuteur ou de tutrice. Le prof doit être un tuteur. Comme pour une plante qui montrait, elle peut s'appuyer sur le tuteur, mais à la lumière, au soleil et grâce à l'eau qu'elle reçoit, la plante prend son propre chemin, se développe harmonieusement, de façon autonome. Elle a fait ça avec ses enfants et elle a obtenu des résultats spectaculaires. C'est qu'en très peu de temps, ses enfants ont obtenu aux examens standardisés de l'époque des performances comparables à celles des autres enfants, alors qu'ils étaient déjà stigmatisés comme aliénés et perdus pour la vie.
À quoi ressemblait son école laboratoire dans ce quartier pauvre de San Lorenzo à Rome?
D'abord, vous imaginez justement dans un quartier très pauvre, une école où les murs étaient blancs, où le matériel était simple, épuré, où il y avait de l'espace, où le bâtiment était propre, donc propreté, clarté, lumière, espace. Les enfants se sentent d'emblée mieux, chacun peut le ressentir. Si nous arrivons dans un endroit sale, triste, peu lumineux, on devient très rapidement sale, triste et peu lumineux. Eh bien, c'est pareil pour les enfants. Si les enfants arrivent dans un environnement de lumière, de belles couleurs, de simplicité aussi, la classe doit être simple, toute la richesse de l'enfant va sortir de lui-même, ce qu'elle appelait en effet l'élan vital.
Qui sont ces grands inspirateurs? Maria Montessori se considère comme la continuatrice des travaux du docteur Itard, le médecin qui avait dispensé une éducation à Victor, le célèbre enfant sauvage de l'Aveyron, une histoire racontée bien évidemment dans L'enfant sauvage de François Truffaut.
Absolument. D'une part, l'enfant sauvage, donc dit cet enfant de l'Aveyron, qui était aussi jugé tout à fait perdu parce qu'il n'avait pas eu d'éducation relation avec des humains lorsqu'il était petit, ou en tout cas très peu, et ne parlait pas, ne semblait pas raisonner. Et Itard a fait sur lui le pari de l'apprentissage. Ce qu'on appelait à ce moment-là, et c'était la suite du siècle des Lumières, l'éducabilité cognitive. Il faisait le postulat que tous les enfants, même ceux en grave difficulté, étaient éducables cognitivement, pouvaient accéder à la connaissance, au raisonnement. Il espérait le langage. Il n'a jamais pu récupérer le langage chez l'enfant sauvage, qui a grandi, qui a atteint l'âge de 40 ans, qui a d'abord retrouvé ses émotions et qui ensuite pouvait raisonner, est devenu quelqu'un de raisonnablement intelligent. Et il eut lui-même un disciple, un élève, qui s'appelait Seguin, l'un et l'autre français, il faut le rappeler, et Seguin a monté à Paris une grande école de pédagogie qui existe toujours rue Saint-Jacques, pas loin de mon laboratoire de la Sorbonne, et Montessori s'est inspiré d'eux. Donc il faut quand même savoir que les premiers philosophes de l'éducation étaient français, Itard et Seguin, et que Montessori explicitement est allé rechercher dans leurs textes des solutions pour résoudre le problème de ces enfants romains aliénés en milieu psychiatrique et essayer de trouver des concepts théoriques qui l'aident, parce que c'était une femme très pratique, très concrète, Montessori.
Quelles étaient les grandes intuitions de Maria Montessori confirmées par la recherche scientifique ?
Alors, la première intuition, c'était que l'enfant devait être rassuré, la sécurité affective. Et on sait aujourd'hui que le cerveau est très, très dépendant de ses émotions et que si l'enfant ressent une émotion négative, eh bien, via le corps, le tronc cérébral, le système, on va dire, émotionnel dans le cerveau émotionnel, limbique et paralimbique, cette émotion négative va se diffuser sur tout le cerveau. Donc, un enfant dans cet état-là ne peut pas bien raisonner. Il a potentiellement peur. Donc, elle a déjà compris ça. Il faut que l'enfant soit sécurisé par l'environnement pédagogique, on l'a dit, par l'attitude du professeur, qui est bienveillante, comme un tuteur. Et ensuite, elle a compris que l'enfant devait apprendre des choses très sérieuses, comme les lettres, comme les chiffres, et le faire d'une part en jouant, donc de façon très sensorielle, très tactile, très visuelle. Elle a compris qu'il fallait passer par le corps. Les lettres rugueuses, ce sont les fameuses lettres où l'enfant, en fermant les yeux, par exemple, avec son doigt, suit une lettre cursive, un D ou un B, ce qui va l'aider à ne pas confondre ces lettres en miroir plus tard, ce que les enfants font dans les classes traditionnelles, parce qu'ils ne les voient que sous forme visuelle.
Et on pourra reparler.
Et en capital. Donc Montessori passait par le geste. Donc Montessori, c'est à la fois une intuition extraordinaire, s'inspirant des grands théoriciens qu'on a évoqués, des philosophes de l'éducation, Locke, Itard, Seguin, et en même temps une femme très pratique, très concrète, qui construisait du matériel et qui arrangeait la classe.
Sébastien Boller, dans Cerveau et Psycho, vous vous intéressez à une nouvelle expérience menée dans une école maternelle publique française qui montre les grands bénéfices de la pédagogie Montessori. Une étude menée par le chercheur en neurosciences Jérôme Prado, l'enseignant Alexis Gachet et la doctorante Philippine Courtier. Cette étude a porté sur 200 élèves de classe maternelle dans un quartier étiqueté difficile pendant 3 ans. C'est l'école Ambroise Croizat de Vaux-en-Velin, en réseau d'éducation prioritaire.
Oui, c'est très important à souligner parce qu'évidemment, quand on cherche d'une part à savoir si scientifiquement la méthode Montessori produit des résultats, il faut des études effectivement standardisées qui répondent aux standards de la recherche scientifique avec des groupes contrôle. Donc on prend une école ici qui avait plus de 200 élèves qui étaient effectivement en zone d'éducation prioritaire. Et c'est important parce que quand on aborde la question de Montessori, il y a souvent la question des inégalités de revenus, l'origine socio-professionnelle des parents. Donc aller voir ce que ça donne vraiment dans une zone d'éducation prioritaire, c'était assez essentiel. Donc je trouve c'est très bien que les chercheurs de l'INSERM et du CNRS de Lyon l'aient fait pour cette raison-là. Et ce qui a été testé pendant 3 ans, c'est l'impact de l'éducation Montessori versus éducation traditionnelle.
Dans trois domaines,
donc à la fois les compétences scolaires, alors il y avait lecture et mathématiques, dénombrement, reconnaissance de symboles, voilà. Il y avait également les compétences sociales, capacité d'interagir avec les autres, de détecter les intentions d'autrui, donc tout ce qui fait la vie sociale dans une école, et puis ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire des fonctions cognitives de haut niveau qui permettent soit de planifier, soit de changer de stratégie, soit de s'observer en action, de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, et les résultats ont été globalement positifs.
Et très positifs notamment sur la lecture.
Alors c'est surtout en lecture, effectivement, que les résultats sont les plus positifs, puisque vraiment les élèves déjà en fin de maternelle, quand ils ont suivi l'enseignement Montessori, vont beaucoup plus loin que ce que font des élèves en maternelle. Normalement, ils arrivent à lire des phrases entières, ils sont vraiment presque au niveau CP sur certains aspects. Et puis, bon, il y a ce chiffre-là, c'est que si vous prenez un élève au hasard dans la classe, si c'est un élève Montessori, il a 70% de chances en plus d'être plus avancé en lecture qu'un élève n'ayant pas suivi cet enseignement. Sur les mathématiques, c'est statu quo, il n'y a pas de grosse différence. Sur les compétences sociales, ça marche très bien aussi, ce qui répond à une objection qui est souvent en fait, on se dit les élèves qui ont suivi l'enseignement Montessori sont habitués à faire les choses selon leurs envies, donc ils vont être moins tolérants à la frustration quand on veut leur imposer des règles. En fait non, en fait ça se passe très bien. Et puis sur les fonctions exécutives aussi, plutôt un effet positif.
Ça vous étonne pas évidemment, Olivier Houdet ?
Non, pas du tout, et lorsqu'on lit dans de grands quotidiens aujourd'hui que les neurosciences découvrent que grâce aux images du cerveau, un enfant peut apprendre à lire avant le CP. Personnellement, même si je suis neuroscientifique, je souris parce que, en effet, il y a un siècle, Montessori avait découvert cela par ce matériel concret. Les neurosciences ont beaucoup d'autres choses à nous apporter et on l'évoquera tout à l'heure.
Christine Appelé-Douelle.
Oui, et je pense, alors je suis aussi une mère de famille, donc j'ai pu observer les choses aussi chez mes propres enfants, mais il y a un élément qui est très important, je pense, et chez Montessori comme chez Freinet, c'est la joie et le plaisir des enfants, la curiosité spontanée, alors j'allais dire naturelle, mais naturelle est un mot un peu dénaturé justement, la curiosité spontanée, l'envie, le désir de découverte, la curiosité immense et la joie, le plaisir d'arriver à apprendre justement et d'acquérir des connaissances qu'ils peuvent appliquer. Alors vous parliez de la lecture, vous parliez de la découverte des lettres, le moment qui est un moment magique, hein, tous les parents peuvent l'observer, le passage de ne pas savoir lire au passage savoir lire, la joie incroyable des enfants, l'ouverture d'esprit et l'envie. Ça, c'est des choses que Maria Montessori et Célestin Freinet ont soutenues, développées, mais qu'il ne faut ne faudrait pas oublier, je crois, dans les classes. C'est-à-dire que trop souvent, l'apprentissage de la lecture, justement, est vu comme une espèce de mur atroce à franchir et où les parents s'épuisent complètement dans la lecture à la maison.
Thibaut de Saint-Maurice, professeur de philosophie de son état. Quelle est votre ordonnance philo ce matin ?
Eh bien Ali, puisque l'on parle ce matin donc des pédagogies alternatives et de leur efficacité, bon, vous l'avez dit, le professeur de philosophie que je suis, se sent particulièrement concerné après 15 années de pratique dans une petite dizaine de lycées différents, alors en Normandie, en Lorraine et puis aux quatre coins de l'Île-de-France. Je peux vous dire le plus difficile, ce ne sont pas les textes de Descartes ou de Hegel, mais c'est d'être un bon pédagogue, de réussir à enseigner effectivement, de réussir à transmettre quelque chose. Alors pourquoi ? Parce que le but de l'enseignement, c'est pas de gaver les élèves de connaissances, hein, comme des oies dont on voudrait faire grossir le foie, mais c'est de rendre les élèves capables de penser, de comprendre, de se questionner, pour pouvoir ensuite savoir ce qu'ils voudront apprendre. Le piège qui menace tous les professeurs, la solution de facilité qui est hyper séduisante, c'est de remplir les élèves au lieu de les stimuler, de s'abriter derrière des connaissances à savoir et à apprendre par cœur, au lieu de préparer les élèves à les comprendre.
Alors comment éviter de tomber dans le piège ?
La question n'est pas si simple, d'autant que, vous avez remarqué, nous avons tous eu une expérience d'élève, plus ou moins agréable, ok, j'en conviens, on a un peu tous, du coup, un avis sur la question. Et moi-même, hein, je prétends pas du tout détenir de solution miracle. Mais il y a une solution tout de même qui me paraît inspirante et qui l'est en plus depuis bien longtemps, encore avant même Maria Montessori, c'est celle de Socrate, il y a presque 2400 ans. Voilà, Socrate, on le considère souvent comme un des pères fondateurs de la philosophie européenne, mais c'est aussi un des premiers maîtres de pédagogie, avec une méthode bien à lui et qui comporte trois étapes. Socrate, pédagogue, c'est d'abord quelqu'un qui reconnaît qu'il ne sait qu'une seule chose, c'est qu'il ne sait rien. C'est donc d'abord une figure de pédagogue humble à l'égard du savoir. Ne rien savoir, ça ne veut pas dire n'avoir aucune connaissance, ça veut dire ne pas croire que l'on sait tout, ou que l'on sait d'avance, ou que l'on sait pour toujours. C'est d'emblée accepter l'idée que l'on a toujours ou que l'on a encore à apprendre. La deuxième étape de la pédagogie socratique, c'est la fameuse maïeutique. La maïeutique, c'est une pratique un peu particulière qui consiste à faire
accoucher l'esprit de l'élève de son savoir. Alors c'est pas une opération magique, hein, mais c'est une manière de procéder avec l'élève par un jeu de questionnement habilement organisé pour le conduire à découvrir par lui-même ce qu'il cherchait. En fait, c'est une façon de rendre l'élève actif dans la découverte en le faisant construire peu à peu un ensemble de déductions qui vont le conduire à connaître. Et puis la troisième étape, enfin, hein, qui est très fortement liée à la deuxième, c'est l'art de la réfutation. Voilà, le Socrate pédagogue, c'est un Socrate qui examine les réponses de ses élèves et qui cherche par tous les moyens à les réfuter, comme pour les tester, pour savoir si ces vérités qui naissent dans l'esprit de l'élève sont viables, comme dit Socrate. Ça implique que le pédagogue ne soit pas simplement en extase hein, devant les découvertes de ses élèves, mais qu'il puisse aussi faire le tri en les poussant dans leur retranchement. Voilà, au fond, chacune de ces étapes de la pédagogie socratique implique, je crois, trois grandes qualités pour le pédagogue. L'humilité par rapport à sa fonction, la confiance en son élève, et puis toujours l'exigence de vérité. Le but d'une telle pédagogie, c'est d'abord de former des êtres capables de penser et d'interroger ce qu'ils croient savoir pour ensuite emprunter le chemin de la connaissance. Voilà, je sais pas pour vous, hein, mais moi je crois qu'on aimerait tous avoir des maîtres à l'école ou plus tard dans la vie qui ressemblent à Socrate.
Et j'aurais adoré vous avoir comme prof de philo, venez, mon cher Thibaut de Saint-Maurice. Je viens quand vous voulez, Olivier Houdet.
Oui, alors j'offrirai... Mon livre « L'école du cerveau » à ce cher philosophe. Alors, je démarre à Platon, qui fut élève de Socrate, mais vous avez tout à fait raison. Il faut ajouter une chose, c'est que Socrate était l'un des tout premiers à préconiser le travail par petits groupes. Et il n'aimait pas les foules, mais il fallait raisonner par petits groupes, ce qu'il faisait toujours avec ses disciples, justement, pour discuter, réfuter, raisonner. Alors, sur le premier point, « Je ne sais pas tout », qui est le point de départ, c'est le tâtonnement expérimental chez Freinet, qui vaut pour les élèves. Ils doivent apprendre en tâtonnant, en expérimentant, mais qui vaut aussi pour les professeurs, disait-il. C'est pourquoi il réunissait, et c'est toujours vrai aujourd'hui, les instituteurs freinets de toute la France ou d'ailleurs, en coopération. Ils avaient une coopérative d'instituteurs où ils échangeaient leurs idées, leurs initiatives pédagogiques. Et enfin, on pourrait continuer avec la maïeutique et l'art de réfuter, qui est le raisonnement finalement. Il faut raisonner avec l'enfant.
Et on s'intéresse dans quelques instants à la pédagogie inventée par Célestin Freinet et sa femme. On l'oublie trop souvent, oui. Mon cher Olivier. On continue à explorer les bénéfices des pédagogies nouvelles pour le cerveau des enfants. Toutes vos questions et témoignages sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand-Mère vous fasse.
Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les hiboux. J'ai une passion depuis peu pour les beaux phénix. J'en connais un parmi eux, il est fantastique. Autrefois, on l'appelait Renaud le renard. Mais depuis qu'il boit du lait, il est bien plus pénard. J'aimerais bien lui parler de ma tortue Pénélope, qui fait rien qu'à éburner et qui est un peu myope. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les hiboux. Depuis toujours, c'est les cachalots, les baleines et leurs amours, les petits baleineaux. J'aime beaucoup les rapaces, les éperviers, les aigles, les colombes et les limaces. Bonjour la rime espiègle. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les hiboux. J'aime tous les animaux de l'arche de Noé. Mais le pire, le plus chacal, c'est l'homme et sa fiancée, qui torture et qui massacre de bien jolis taureaux dans de sinistres spectacles et sous les bravos. Pour cela, je souhaite un jour que les charognards s'en viennent tourner autour de leur reste blafard, qu'ils finissent un peu comme les ours, les éléphants, qu'on dessine ou qu'on dégomme pour le goût du sang. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. Les chouettes.
Renaud interprétait les animaux.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
10h43, Freinet, Montessori, quel est le bénéfice des pédagogies nouvelles pour le cerveau des enfants? C'est la question que nous posons ce matin avec le mensuel Cerveau et Psycho. Beaucoup, beaucoup de questions et de commentaires. Pascal nous dit, je suis institutrice, la difficulté pour la mise en place des pédagogies alternatives, c'est que lorsqu'on les pratique, on est complètement marginalisé au regard des collègues et des parents. Qu'en est-il, nous dit Bénédicte, des notions d'effort et de contraintes dans ces enseignements? La société ne sera pas aussi souple. J'ai croisé beaucoup d'enseignants qui n'appliquent pas ces méthodes à cause de ça. Qu'est-ce qu'on répond, Olivier Houdet?
Il faut les appliquer. Il faut les appliquer intelligemment, parce qu'il y a évidemment de l'effort et des contraintes tant chez Montessori que Freinet. Je prends l'exemple de Freinet. Freinet avait mis en place ce qu'il appelait des plans individuels de travail, c'est-à-dire des fiches qu'on appelait autocorrectives. L'enfant avec le professeur qui l'aidait à définir ses objectifs de la journée, de la semaine, voire du mois, et ensuite l'enfant lui-même devait évaluer s'il les avait atteints ou non. Dans le cerveau, c'est ce que ça provoque, un calcul d'erreur, de différence entre ce que l'on voulait obtenir et ce qu'on a réellement obtenu, et si on a un petit progrès, ça libère dans le cerveau de la dopamine, qui crée ce plaisir d'apprendre que vous dites et d'envie de progresser. Donc il y a un effort chez Montessori, chez Freinet. C'est une mauvaise interprétation que de croire cela. Et il peut y avoir beaucoup de contraintes également, tant contraintes du matériel que de contraintes de la façon de tâtonner expérimentalement. Ou les réfutations que vous évoquiez tout à l'heure, c'est bien une contrainte que d'opposer à l'enfant un avis contraire au sien.
Sébastien Boller.
Oui, sur la question de est-ce que la société sera toujours souple comme ça, c'est vrai que ça a été étudié. Hein. Barbara Shankland à Grenoble a pu montrer que, par exemple, les enfants qui entrent au collège ont plus souvent...
Rebecca
Shankland, qui a montré que 40% effectivement des élèves qui viennent d'un enseignement Montessori ressentent une certaine difficulté au moment de passer au collège, ce qui est moins le cas chez ceux qui ont été dans l'enseignement traditionnel depuis le début. Mais la souplesse de la société, peut-être que c'est aussi ça qu'il faut faire évoluer. Si vous regardez les classements PISA qui viennent de tomber, là, la France est très mal placée, une fois de plus, enfin, dans le milieu du peloton de l'OCDE, et surtout comme un des pays les plus inégalitaires.
Rappelez ce qu'est le classement PISA.
Ben, c'est une évaluation internationale de l'efficacité des systèmes d'enseignement d'une soixantaine de pays qui fait l'unanimité dans ses méthodes. Hein. C'est reconnu comme un bon miroir de ce qui se passe. Nous, ça va pas fort en France. Hein. Et puis surtout, on est le pays parmi les plus inégalitaires, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'en sortent bien, puis le gros du peloton, c'est beaucoup plus difficile. Et surtout, c'est que si vous regardez les pays qui sont bien classés dans le classement PISA, vous avez par exemple la Finlande qui a déjà commencé en fait à intégrer dans ses structures des principes d'éducation personnalisée de type Montessori. C'est centré sur l'élève, il y a plus de jeux, il n'y a pas de notes, et donc la souplesse, c'est peut-être au niveau de l'institution qu'il faut commencer à la penser.
Alice nous dit que c'est dur quand on est enseignant d'entendre votre émission, on a vraiment l'impression d'être maltraitant, décalé avec nos élèves, on se débat comme on peut avec nos savoirs et nos moyens alors que les solutions apparaissent si simple en vous écoutant. Quand l'éducation nationale sera capable de tout révolutionner en nous formant pour de vrai, sans ce bricolage permanent. Réponse du prof.
Oui, non, juste solidarité pour cette collègue qui écoute, mais je comprends bien son sentiment. En fait, moi, je ne rencontre quasiment que des professeurs qui, individuellement, devant leur classe, d'abord, un, sont sensibles à ces questions, et deux, font systématiquement de leur mieux, parce qu'ils sont, eux, au contact de 100, 150 élèves, etc. Et donc, moi, je crois que la réflexion, c'est pas la mise en cause des pratiques individuelles. C'est une réflexion sur plutôt des pratiques collectives. En fait, ce qu'on interroge là, et quand on enseigne tous les jours, on s'en rend bien compte, c'est que ce qu'on interroge là, c'est des effets de système, c'est des pratiques collectives, c'est des questions de programme, c'est des questions de notes, c'est des questions de formatage par un examen. Et ça, les professeurs individuels devant leur classe, ils en sont, en un sens, les premières victimes, souvent. Donc, c'est pas du tout une mise en cause de l'exigence et de la conscience professionnelle des professeurs individuellement. C'est une réflexion, je crois vraiment, sur des effets de système.
Laura nous demande pourquoi l'expérience de Céline Alvarez a-t-elle été mise à l'arrêt par le ministère de l'Éducation, Christelle Pelédoel.
Mais c'est un peu compliqué. Je vais pas répondre à la place de Céline Alvarez. Elle n'est pas là et elle pourrait dire ça mieux que moi. Mais je pense que le grand bénéfice de ce qui s'est passé avec les deux livres de Céline Alvarez, c'est que
grand succès
de librairie, c'est qu'elle a mis le doigt sur des dysfonctionnements et qu'elle a posé des questions, donc qui ont eu un écho énorme. Alors maintenant, après, tout le monde peut discuter de la manière dont elle propose des solutions qu'elle propose, etc. C'est sûr que elle dit des choses très intéressantes et d'autres qui sont très contestées. Alors maintenant, est-ce que les enseignants, et sans doute c'est le cas, se sont sentis malmenés, mis de côté et remis en question, ce sont par elle, enfin par ce qu'elle propose, ça ce sont des choses qu'on entend. Maintenant qu'elle soit allée en Belgique pour opérer la deuxième partie de son expérience, c'est parce qu'elle a été tout simplement invitée par la ministre de l'Éducation belge à venir pratiquer en Belgique.
Céline Alvarez qui a notamment publié Les lois naturelles de l'enfant. Olivier Houdet.
Moi, je crois qu'on parle beaucoup trop de Céline Alvarez et pas du tout assez des milliers, des dizaines de milliers de professeurs anonymes qui font du travail tous les jours dans les écoles, aussi bon, je dirais même meilleur, puisque le font réellement. Ils n'ont pas le temps de faire des succès éditoriaux. Et ces professeurs-là, je suis d'accord avec vous, nous sommes tous les deux autour de cette table, professeurs et instituteurs, ils ont des talents, ils ont des trésors et même des trésors de curiosité. Et ne vous a pas échappé que j'ai publié une tribune dans le Nouvel Observateur oui. Il y a quelques mois qui disait: le discours actuel sur les neurosciences oublie une chose, c'est que les professeurs aussi ont un cerveau qui a besoin de tâtonner, d'apprendre, d'être respecté et qui est plein de richesses pour développer des initiatives pédagogiques. Mais en effet, le système et la formation des professeurs dans les INSPE n'est pas du tout, même si les choses évoluent, suffisamment dans cet esprit. Il ne faut pas seulement apprendre aux professeurs la discipline qu'ils doivent enseigner ou les disciplines, il faut les mettre en position, comme un médecin le serait face au corps de son patient, dans position de comprendre les mécanismes cognitifs, le cerveau des enfants, et surtout ils comprendront alors l'impact et la responsabilité qu'ils ont à l'égard de cela, parce que chaque leçon du professeur modifie des connexions neuronales dans le cerveau de l'enfant. Et ça, c'est génial, mais ça les responsabilise. Et s'ils sont responsabilisés, ils sont curieux, ils veulent de la formation continue, ils viennent écouter nos conférences, ils lisent nos livres.
L'INSPE, c'est l'Institut national. L'INSPE, c'est l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
Quand je suis revenu de la guerre de 14-18, j'avais été assez sérieusement blessé, et notamment, je ne pouvais pas parler longtemps. Surtout, pas parler dans une salle de classe. Et alors, j'ai cherché les solutions, ou bien je quittais l'enseignement à ce moment-là, ou bien je trouvais d'autres techniques de travail, c'est-à-dire une façon qui m'aurait permis de faire ma classe d'une façon intelligente, de m'intéresser à ma classe, et efficiente aussi, mais que je puisse tenir le coup, jusqu'au jour où j'ai trouvé une petite machine, on appelait la Lino. Alors le premier jour, on imprime un petit texte, puis le deuxième jour encore. Une première étape était franchie, c'était déjà quelque chose de formidable. Et alors tout de suite, j'ai pensé que ce qui serait bien, ce serait de profiter de cet imprimé que nous avions réalisé pour l'envoyer à d'autres correspondants. Toutes les techniques traditionnelles sont isolées de la vie, c'est-à-dire que l'enfant ne voit aucun besoin. Alors nous rétablissons les circuits. Et je vous montre comment, en 1925-26, nous avions rétabli les circuits, et le procédé est toujours le même. Si nous parvenons à rétablir les circuits, alors tout va bien. Les enfants s'intéresseront à leur travail, s'intéresseront aux études, et l'instituteur s'intéressera également à son travail.
La voix de Célestin Freinet, Olivier Houdet, rappelez-nous qui était Célestin Freinet. Je rappelle donc, vous avez été instituteur dans une classe Freinet à Louvain-la-Neuve, en Belgique, en 1983.
Alors Freinet, dont nous venons d'entendre la voix, on a perçu son accent provençal, donc c'est à Vence, en Provence, qu'il a fait ses expériences, qu'il a créé cette école, qui est aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. Et Freinet, en effet, par les hasards de sa vie, on l'a compris, il fut blessé de guerre, il reçut la Légion d'honneur, très jeune pour cela, et il avait décidé, il était instituteur, de se consacrer à la pédagogie. Et voyez, dans le magazine Cerveau et Psycho, je dois saluer le travail exceptionnel qu'a fait le journaliste Guillaume Jacquemont, avec lequel on a travaillé sur cet article Freinet. Et dans mon bureau à la Sorbonne, il y a une grande boîte avec plein de fiches autocorrectives, des diapositives qu'on n'avait pas exhumées en quelque sorte depuis presque 30 ans, qui était mon année d'expérience Freinet avec les enfants. Et je lui ai dit, prenez les diapositives, c'était des diapos à l'époque, et vous pouvez en ressortir quelques photos. Et ces photos sont publiées dans le magazine, et précisément sous mes yeux, à la page 50, il y a la photo de la petite machine dont vient de parler Freinet, ou son équivalent, qui est une petite presse d'imprimerie avec des caractères mobiles. Et les enfants, à partir de quelque chose qu'ils avaient envie de raconter, donc pas un contenu qui venait du professeur, pas d'une discipline, un bain de vie, un élément de vie que l'enfant avait envie de raconter, ce dont il avait rêvé la nuit, ce qu'il avait fait le week-end précédent, ce qu'il allait faire dans deux jours. Donc vraiment des choses qui partent des intérêts de l'enfant. Et qui mieux que l'enfant connaît ses intérêts? Et à partir de cela, il l'imprime dans un texte, par exemple. Il apprend la lecture, il discrimine les lettres. Et Freinet avait eu ça, ce sens de la vie. Et pour lui, les choses doivent partir de la vie, donc de l'élan vital de l'enfant, et tout être dans un bain de vie, que ça ne soit pas trop abstrait. Et l'éducation verticale classique. Alors, est trop abstraite.
Célestin Freinet croyait à l'élan vital des enfants, mais structuré par le travail cognitif, voilà, plutôt que par le jeu.
C'est vrai. C'est la différence majeure qu'on pourrait voir entre Freinet et Montessori, c'est que Freinet croyait au travail, comme j'ai dit, à la coopération sociale, dans un esprit de militant politique, parce qu'il était en effet communiste, sans du tout faire de la politique à l'école, mais il croyait au collectif, au travail collectif, au fait que chaque enfant ne peut pas tout faire tout seul. Il doit s'aider de l'action de l'autre, et que lorsqu'on imprime un texte qui devient le journal de correspondance qu'on envoie à d'autres écoles, ce qui se fait aujourd'hui dans les écoles Freinet sur des tablettes, avec des ordinateurs, des systèmes de traitement de texte. Donc vous voyez que les enfants apprennent le numérique, mais dans un bain de vie, comme le voulait Freinet. C'est pour raconter une histoire. Je décris dans l'article l'atelier bouclier. Les enfants voulaient faire des boucliers. Eh bien, on a fait tout un atelier bouclier. Il y avait l'atelier carton, il y avait l'atelier peinture. Je raconterai peut-être la suite plus précisément tout à l'heure.
Et on n'aura pas le temps, mais on lira votre papier. Mais
c'était formidable.
Ce qui m'intéresse, c'est que vous reveniez sur quand même ce principe du tâtonnement expérimental, oui, de Freinet. Pourquoi c'est si précieux pour notre cerveau?
Alors, il faut toujours préserver dans le cerveau de l'enfant qui apprend la curiosité. Donc il y a beaucoup de travaux aujourd'hui d'imagerie cérébrale qui montrent les circuits neuronaux de la curiosité et que cette curiosité doit être éveillée. Pour qu'elle soit éveillée, il faut que l'enfant soit dans une situation où il a envie, donc la motivation dont on a déjà parlé, de découvrir quelque chose qu'il ne sait pas déjà. On retrouve Socrate. Donc, quelque chose qu'il ne sait pas déjà. Donc, faut pas que les tâches soient trop faciles. Parfois, on se dit, on va mettre un milieu très facile pour l'enfant. Non, des tâches un peu difficiles, mais n'est pas non plus trop difficiles. Parce que si c'est trop difficile, l'enfant n'est plus curieux. Cela tue la curiosité. Et très souvent, en effet, on peut rapidement tuer la curiosité de l'enfant. Donc, maintenir la curiosité, auquel cas ces circuits sont éveillés dans le cerveau, et puis tâtonner. Pour trouver, il faut que l'enfant manipule lui-même. Vous avez mis une très belle photo dans l'article, Cerveau et Psycho, avec un enfant qui manipule un robot, qui essaye de construire un robot, ce qui se fait aujourd'hui à l'école. Mais c'est lui-même qui construit le robot, qui le démonte. Donc l'enfant manipule et en manipulant, il va tester des hypothèses. Son cerveau teste des hypothèses et certaines choses vont marcher, hypothèses validées, d'autres ne pas marcher. Et il y a un mécanisme de correction d'erreur dans le cerveau et c'est ça le tâtonnement expérimental de Freinet.
Une question qui revient beaucoup ce matin. Est-ce que ces pédagogies nouvelles sont bonnes pour tous les élèves? Est-ce qu'on peut démocratiser ce modèle, Sébastien Boller?
Très bonne question. Non, je ne sais pas. J'ai envie de poser la question à Olivier Houdet. Est-ce qu'il n'y a pas des profils psychologiques qui aiment plus être, on va dire, pas maternés, mais où ils attendent qu'il y ait un cadre bien fixe, où la connaissance est délivrée de façon régulière? Il y a peut-être des élèves qui sont moins proactifs et qui sont plus en attente de connaissances qui viennent de façon verticale. Et je pense que de toute façon, on sera obligé de se poser cette question. Parce que autant la curiosité est indispensable pour préparer l'élève à apprendre, autant il y a des notions et des niveaux de classe où l'élève ne pourra pas découvrir tout tout seul. Quand il s'agit d'aborder ce que c'est que l'ADN, par exemple, ou les atomes, l'élève ne pourra pas les découvrir par eux-mêmes. Donc, il y a un moment où le professeur va devoir dire il existe cette chose-là qui a été découverte par des siècles de recherche, mais qu'à ce moment-là, ça arrive un moment de questionnement de l'élève. J'imagine que c'est ça.
Bien sûr qu'il y a une transmission, oui. Mais un élève peut rechercher ce type de connaissances sur l'ADN de façon active. Oui, il peut aller rechercher dans la bibliothèque, sur Internet. Je voudrais quand même ajouter qu'on a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est bon pour tous les élèves? Oui, on peut faire une école inclusive en tenant compte de la curiosité des enfants.
Merci beaucoup, Olivier Houdet. On peut lire avec profit l'école du cerveau de Montessori, Freinet, Piaget aux sciences cognitives. C'est publié aux éditions Mardaga. Merci beaucoup, Sébastien Boller. Le tout nouveau numéro de Cerveau et Psycho. Montessori, Freinet, quel bénéfice pour le cerveau des enfants, est disponible en kiosque. Merci beaucoup, Christina Pelledouelle de Psychologie Magazine. Et merci évidemment à Thibaut de Saint-Maurice.